Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, le premier jour de la semaine, les deux apparitions qui nous sont données de contempler aujourd'hui sont deux apparitions du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche de la résurrection, dimanche dernier, et huit jours après, c'est-à-dire aujourd'hui. N'ayez aucun doute, c'est à partir de là qu'est né le dimanche chrétien. C'est dès le début que l'Église a pris l'habitude de fêter son Seigneur, non pas un septième jour, c'est-à-dire comme si on avait transporté le sabbat du samedi au dimanche, pas du tout. Le huitième jour n'est pas un autre septième jour, c'est un nouveau jour après tous les jours, c'est une nouvelle création. La résurrection est une nouvelle création. Alors voyons, c'est très simple, ces deux apparitions successivement, parce que chacune des apparitions du Christ nous dit quelque chose de différent. Il me semble que dans la première, celle de dimanche dernier, Dieu se montre, et dans la deuxième, celle d'aujourd'hui, Dieu se laisse démontrer. Monstratio est demonstratio. Tout d'abord, monstratio, Jésus se montre à ses disciples, c'est-à-dire les 11 moins 1, j'y reviendrai dans la deuxième partie, c'est-à-dire que Judas est déjà parti, bien sûr. Nous savons que quand les disciples d'Emmaüs, on nous précise bien, quand ils reviennent et qu'ils parlent aux disciples, les 11 sont là, c'est-à-dire Thomas compris, et arrive cette apparition du dimanche soir de la résurrection, et Thomas est sorti. Et le Seigneur vient et se tient au milieu d'eux. C'est toujours le même mot, il vint, il est là. Jésus n'est pas venu revivre avec ses disciples. Il leur est apparu, c'est-à-dire qu'il s'est tenu au milieu d'eux de temps en temps. Pour nous, c'est important, c'est-à-dire qu'il est venu pour conforter dans sa présence, à quelques instants, même s'ils sont nombreux, il y a plus de 13 apparitions qui nous sont racontées dans l'Écriture, l'Évangile et les Actes des Apôtres, et il y en a certainement eu beaucoup d'autres. Mais en tout cas, pour nous, c'est important de voir que les apparitions sont une confortation de la foi. À un moment, le Seigneur se tient présent et il est là, au milieu d'eux. C'est évidemment de la même manière, encore et jusqu'à la fin du monde, que de temps en temps, le Seigneur se rend présent au milieu de nous. Et la première chose qu'il dit à ses apôtres réunis, c'est « La paix soit avec vous ». La paix, pourquoi ? Parce qu'ils sont dans la crainte. Ils sont dans une double crainte, si j'ose dire. D'abord, la crainte des Juifs, ça nous est dit expressément, la crainte des représailles, de cette aventure ratée. Le Seigneur est mort. Ils avaient mis beaucoup d'espoir dans ce Messie qui allait restaurer. Jusqu'à la fin, les disciples ont eu du mal à comprendre que son royaume n'était pas de ce monde. Alors aujourd'hui, ils sont dans la crainte et ils ont peur. Ils s'enferment. Et puis, en quelque sorte, ils ont aussi la crainte de voir le Seigneur, paradoxe de l'âme humaine, qui redoute et l'un et l'autre, et une chose et son contraire, et ils redoutent de le voir ne sachant pas comment cela est possible. Voilà pourquoi le Seigneur se montre, et il leur dit « Voici mes mains, mes pieds, regardez et touchez ». On ne sait pas s'ils ont touché, en tout cas le Seigneur leur dit « Regardez et touchez, c'est bien moi, il y a bien une marque » des clous, de la lance, dans mon corps. Le Seigneur continue dans ses apparitions de nous assurer que c'est corporellement qu'il est présent, et nous qui voyons avec les yeux de la foi, nous savons que c'est encore corporellement, dans toute son humanité, dans toute sa divinité, son âme et son corps, qu'il se rend encore présent parmi nous. Alors bien sûr, après, ils éprouvent une grande joie, la joie de savoir que, par-delà l'échec, il y a la victoire de la résurrection. Que fait le Seigneur ? Immédiatement, le Seigneur n'apparaît pas gratuitement, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'il apparaît pour quelque chose, et immédiatement il va les envoyer en mission, en leur donnant un pouvoir bien particulier, celui du pardon des péchés. Il les envoie, c'est-à-dire qu'il les prépare immédiatement à sortir. Il n'est pas question qu'ils restent enfermés. Il est bon que nous soyons à l'intérieur pour prier, pour assister à l'apparition du Seigneur, mais il est bon, si jamais le Seigneur se rend présent, c'est pour cela qu'ensuite vous partiez, l'ité, partez, ité missa est, allez-vous-en, allez-vous-en dire que le Christ est ressuscité. C'est le sens de l'envoi de chaque messe. Eh bien, c'est ce que fait le Seigneur, il les envoie pour proclamer cette bonne nouvelle, en leur donnant un pouvoir, le pardon des péchés. Et oui, pour ceux qui s'en doutaient, ou qui ne s'en doutaient pas, la raison principale, première, essentielle de la venue du Seigneur, c'est le pardon des péchés. Alors pour vous aussi, mes bien chers frères, pour nous aussi, la première chose que nous avons à annoncer au monde, après que la résurrection du Seigneur, c'est que le Seigneur prépare le pardon pour son peuple. C'est la chose la plus essentielle, peut-être la plus difficile aujourd'hui à annoncer. Notre monde matérialiste ne se rend pas toujours compte à quel point il a besoin de pardon, c'est-à-dire qu'il a besoin que par-delà son inefficacité, par-delà son péché, par-delà ses fautes, par-delà ses failles, par-delà ses incapacités, il va pouvoir vivre. Dieu va pardonner, il va donner par-delà tout mal. Voilà ce qu'il vous faut annoncer de nouveau et encore. Voilà mes bien chers frères pour cette première apparition du dimanche dernier, la dernière du jour, il y en avait 6 le dimanche de la résurrection, et cette dernière confortait tout spécialement l'Église naissante qui allait enfin advenir au monde. Il s'est montré pour que le voyant, il soit conforté dans leur mission. Mais voilà, il y a une deuxième apparition qui nous est donnée à méditer, à contempler, c'est l'apparition à Thomas. Ou plus exactement, c'est de nouveau l'apparition aux 12 avec Thomas présent. Alors, un mot de Thomas et un mot de sa mission. Tout d'abord, Thomas, je pense, est l'intrépide. C'est l'apôtre magnifique. Si Pierre est l'impulsif de la bande, Thomas est peut-être le plus intrépide de tous. Effectivement, rappelez-vous, Thomas, c'est celui à qui on ne fait pas facilement avaler quelque chose. Rappelez-vous du beau discours du Seigneur, je pars, vous préparez une place, là où je vais, hein, vous connaissez le chemin, etc. Et c'est Thomas qui se permet d'interrompre le Seigneur en lui disant, on ne sait même pas où tu vas, est-ce qu'on pourrait savoir le chemin? Vous voyez, Thomas c'est celui-là, hein, la tête un peu dure. C'est lui aussi magnifique qui, au moment de monter à Jérusalem, comprend bien que c'est fichu, puisqu'on vient de dire « Mais tu veux monter à Jérusalem, les Juifs cherchent à te tuer. Hein » C'est Thomas qui prend la parole cette fois-ci et qui dit « Montons avec lui et mourons avec lui. » Thomas n'a peur de rien. Et pourquoi n'est-il pas au premier jour de la semaine? Ça, ce n'est pas la doctrine de l'Église. Vous n'êtes pas obligé de le croire, mais c'est ma réflexion. Je vous la partage. Pour moi, s'il n'est pas au premier soir de la semaine parmi les 11, qui sont enfermés par peur des Juifs, c'est que venant de recevoir la nouvelle de Cléophas et de l'autre disciple d'Emmaüs que le Seigneur était ressuscité, il est sorti. C'est-à-dire qu'il n'avait pas peur, ou qu'il a vaincu sa peur. C'est-à-dire que, eh bien, lui n'est pas tenu enfermé. Alors on comprend que cet esprit un peu fort, un peu intrépide, un peu dur peut-être, ne croit pas les autres quand ils lui disent « Mais nous avons vu le Seigneur, il est ressuscité, je ne croirai pas ». Si je ne vérifie pas moi-même. Bienheureux Thomas, qui a vérifié pour moi ce que j'aimerais tant faire, toucher, mettre mes doigts dans le corps même du Seigneur, m'assurer que vraiment, sans plus aucun doute possible, le Christ est ressuscité et que je vais ressusciter. Remercier 1000 fois Thomas d'avoir eu la tête si dure et d'avoir vérifié pour nous, pour les siècles qui viennent, cette magnifique nouvelle. D'ailleurs, le Seigneur ne va pas s'y tromper, il ne le gourmande pas, il ne le rabroue pas, il vient vers lui spécialement, touche, touche, et maintenant, que dis-tu? Il va faire une profession de foi extraordinaire, et le Seigneur va le bénir pour cela. Il va dire, mon Seigneur et mon Dieu, c'est-à-dire qu'il reconnaît pour nous que le Christ est vraiment le Messie prévu dans l'Écriture, annoncé, renouvelant Israël, et qu'en plus, c'est Dieu lui-même, mon Seigneur et mon Dieu. Ce que nous nous sommes habitués à croire, mais ce n'était pas évident au temps des Juifs. Voilà pourquoi le Seigneur n'a pas été reçu. Tout le monde avait bien reconnu que c'était le Messie qui faisait des miracles extraordinaires et qu'il accomplissait l'Écriture. Mais beaucoup n'ont pas compris que c'était Dieu lui-même qui venait dans ce Messie. Voilà la profession de foi essentielle de Thomas, la profession de foi essentielle de tout chrétien qui sait que se tient au milieu de lui, du peuple de Dieu rassemblé, le Christ qui est le Messie, l'accomplissement des Écritures et des promesses, et Dieu lui-même. Alors le Seigneur lui dit, on croit parfois encore que c'est un reproche, et pas du tout. Il lui dit « heureux », la bonne traduction serait de dire « bienheureux ceux qui croiront sans avoir vu, à travers toi, ceux qui mettront leur foi dans ta profession de foi seront déclarés bienheureux. » Mais bien, chers frères, désirez sans cesse mettre en œuvre votre intelligence afin d'affermir votre foi. Credo ut intelligam, je crois afin de mieux comprendre, afin de mieux éclairer mon intelligence, mais n'oubliez pas la deuxième partie, intellego ut credam, je réfléchis, je pense, je raisonne afin de mieux croire. Nous n'avons peur de rien, il n'y a aucune contradiction profonde essentielle entre la foi et la raison. Avec Thomas, désirez sans cesse voir et comprendre afin de mieux croire, alors il vous sera donné, à vous aussi, mes bien chers frères, de toucher le Christ. Ainsi soit-il.